Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Il y a plusieurs mois, Amandine de l'école Saisie est rentrée en contact avec moi pour échanger sur le podcast. Quelle aubaine! J'y ai vu une super opportunité de pouvoir élargir la contribution de mon projet. Je m'adresse aux étudiants, aux salariés en quête du Graal, c'est-à-dire leur vocation. Alors quoi de mieux que de travailler en collaboration avec un acteur de l'enseignement comme Saisie pour vous faire découvrir quelques-uns des métiers exercés par leurs anciens étudiants? Laissez-moi vous présenter en quelques mots Saisie. Alors Saisie, c'est un organisme d'enseignement supérieur et de formation professionnelle qui forme plus de 26 000 étudiants, alternants et salariés chaque année sur leurs 25 campus répartis dans toute la France. C'est plus de 52 titres de formation dans des secteurs divers comme l'ingénierie, management, digital, QSE, qualité, sécurité, environnement dont on va parler justement aujourd'hui. Cette semaine, pour ce premier épisode en partenariat avec Saisie, je reçois Kevin, qui est responsable QSE, qualité, sécurité, environnement, métier qui m'était complètement obscur encore il y a quelques jours. Vous allez voir, ce métier est au cœur des rouages de l'entreprise, en contact avec tous les départements, au centre des problématiques de sécurité et de satisfaction client. C'est un métier qui mérite largement d'être découvert pour sa richesse et sa diversité de missions. Kevin, mille merci d'avoir accepté de nous ouvrir les coulisses de ton métier et merci à toute l'équipe Saisie d'avoir permis cette superbe rencontre. Je vous souhaite à tous une très très bonne écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti! Bonjour Kevin.
Bonjour Julie.
Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast pour que tu puisses nous expliquer en détail en quoi consiste le métier de responsable QSE. Alors personnellement, je crois n'en avoir jamais croisé en fait en 20 ans de carrière en entreprise, ou alors peut-être que j'en ai croisé mais je ne le savais pas. Donc j'ai vraiment hâte que tu nous expliques effectivement quelles sont vos responsabilités, votre périmètre d'action, etc. Que tu mettes en lumière ce métier. Mais avant cela, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ton parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui, les fonctions que tu occupes.
Alors, quand j'étais petit, j'ai eu très rapidement des envies de rentrer dans des unités militaires. Et puis un jour dans mon enfance, j'ai connu un feu de forêt qui a entraîné une évacuation de mon domicile et tout ça. Et j'ai su rapidement en fait que je voulais faire pompier. Et puis j'ai cherché pompier en étant militaire, et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier métier de marin-pompier de Marseille au sein du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Et tu y es resté combien de temps?
Alors j'ai réalisé 9 ans, 9 belles années au sein du bataillon des marins-pompiers de Marseille, et après j'ai entamé un parcours de reconversion pour faire le métier que je fais aujourd'hui dans le domaine du...
Alors... Bon, QHSE, déjà, peut-être qu'on va lever le voile de ce mystère. Mais qu'est-ce donc que QHSE? Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que signifient ces initiales?
Oui, alors c'est des initiales qui veulent dire... C'est des mots simples, mais qui veulent dire beaucoup de choses. Le Q de qualité, le H de hygiène, mais on n'entend pas l'hygiène industrielle. Le S de sécurité et le E de environnement.
D'accord, ok. Bon, déjà, avant qu'on parle de ton métier, j'ai deux, trois autres questions auparavant, c'était important quand même qu'on ne prononce pas ce mot barbare sans que personne ne comprenne rien à ce qu'on raconte. Alors, comment tu as découvert ce métier et quel a été ton cheminement pour te dire à un moment donné, ok, aujourd'hui je suis pompier, demain je souhaite exercer ce métier? Surtout, comment tu l'as découvert?
Alors, en fait, ça faisait donc 9 ans que j'étais au bataillon, et puis j'ai été animé par l'envie d'un nouveau challenge. Comme je disais, pendant 9 années, je suis toujours pompier puisque je suis pompier volontaire à côté, mais j'étais dans l'après en termes de sécurité. J'ai voulu découvrir qu'est-ce qui se passe avant. Et étant toujours, on va dire, passionné par la sécurité, j'ai donc cherché une formation en accord avec ma volonté. Et c'est comme ça que j'ai entamé un parcours de reconversion professionnelle en intégrant, dans un premier temps, le DUT, donc HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement, à l'IUT de la Ciotat. Pendant cette année-là, je l'ai réalisé en alternance. J'ai occupé donc déjà des fonctions de responsable QHSE dans le secteur industriel, sur l'industrie lourde. Et puis j'ai continué mon parcours, vu que ça se passait bien. J'ai enchaîné avec un master 1 de responsable qualité, sécurité, environnement, toujours en alternance dans le secteur industriel. Et j'ai terminé ce parcours avec un master spécialisé en management de la sécurité et des risques industriels, qui m'a permis donc de m'expertiser vraiment dans le management de la sécurité et la gestion des risques industriels. Et j'ai eu la chance d'occuper à nouveau des fonctions d'ingénieur HSE avec une double fonction de, on va dire, de ce qu'on appelle Project Risk Manager, un nom encore très barbare pour le domaine, mais qui signifie concrètement qu'on est amené à gérer les risques qui concernent des projets, toujours dans l'industrie.
Ok. Mais alors, comment tu as découvert ? Parce que ce métier, alors, sauf si moi je suis totalement naïve, mais je n'en ai pas beaucoup entendu parler auparavant. Donc, comment toi tu l'as découvert et qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans ? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de t'enclencher là-dedans ? Parce que t'as repris des études et pas qu'un peu, quoi. Donc, il faut être un petit peu motivé quand même.
Ça, c'est sûr qu'il fallait être motivé. En fait, étant donné que je voulais rester dans le domaine de la sécurité, je me suis mis à rechercher des formations. Et on va dire que c'est la formation phare et la formation reconnue, tout simplement parce que grand nombre d'officiers sapeurs-pompiers professionnels passent par ce type de formation avant eux d'intégrer les concours et les écoles de formation. Donc en fait, il y a toujours un lien, on va dire, entre le monde du pompier et le monde de la sécurité et le monde de l'HSE, car tout simplement, beaucoup de compétences qui existent chez les pompiers sont très utiles dans le monde de l'HSE, que ce soit en termes de sécurité incendie, en termes de secourisme, en termes de tout ce qu'on apprend, par exemple, dans l'explosimétrie, la gestion des gages, toutes ces connaissances, en fait, sont très complémentaires au milieu de l'HSE.
Et je trouvais ça super intéressant quand on s'était eu au téléphone pour préparer l'entretien. Tu m'avais dit que la logique aussi que tu voyais entre pompier et aujourd'hui le métier que tu exerces, c'est quelque part tu étais remonté, en fait, dans la chaîne pour prévenir le risque plutôt que de venir le sauver une fois que le risque était avéré. Et je trouvais que c'était super intéressant. Et en fait, du coup, ton parcours paraissait extrêmement, extrêmement cohérent, quoi.
Exactement, c'est-à-dire l'après, on va dire, l'accident est là, on fait en sorte de mettre en place un dispositif pour que ça se passe bien, que ça soit sur l'humain ou sur l'environnement, le bâtiment. Et le fait de travailler le plus en amont possible, et d'ailleurs je suis très investi pour toujours remonter plus haut en termes de gestion des risques, je trouve que c'est passionnant parce que lorsqu'on arrive à mettre en place dès les débuts des projets, ou alors au sein d'un système complet, des actions qui permettent de préserver le capital humain, mais également en parallèle de donner de la performance au sein d'une entreprise, je trouve que j'ai la chance de faire ce métier-là, en fait, tout simplement.
Bon, je vois que tu es bien motivé. Et tu l'étais quand tu as repris tes études. Alors, je crois que ces études, et c'est aussi pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, c'est que tu as repris tes études et tu as fait un long parcours auprès de l'organisme de formation Saisie. Oui. Est-ce que tu veux bien nous expliquer, en fait, pourquoi tu les avais retenus quels ont été pour toi les avantages, en fait, de ce cursus ?
Quand j'ai repris mes études, j'avais déjà 27 ans, donc j'avais des expériences, on va dire, de salarié et une habitude de vie de salarié. Le DUT HSE que j'ai réalisé sur la Ciotat était donc scolaire, et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer le Saisie, qui eux étaient vraiment sur une formation professionnelle, avec un rythme qui permet de réaliser une semaine de formation pour 3 semaines d'entreprise, je me suis dit, c'est ce qu'il me faut, tout simplement parce que pendant une semaine, on va me proposer d'apprendre un certain nombre de choses dans des domaines, et après j'ai 3 semaines pour aller les découvrir un petit peu en autodidacte, pour les appliquer, pour les travailler, les améliorer, et ça permettait aussi d'être plus en accord avec ma vie adulte, d'être, on va dire, dans ce schéma salarié et moins scolaire. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance de rencontrer des super personnes au Saisie qui m'ont ouvert les portes. Et en effet, donc j'ai réalisé 18 mois de formation à travers le Master 1 de responsable QSE, qui donne un titre de Bac plus 4. Et après, j'ai réalisé encore presque 14 mois de formation avec eux sur le Master spécialisé en management de la sécurité des risques industriels, qui donne un titre de Bac plus 6, avec la validation d'une thèse professionnelle, qui est une histoire assez difficile, mais passionnante aussi, à réaliser.
Ouais, tu voulais plus t'arrêter, quoi.
En fait, quand j'ai repris les études, que j'ai réalisé ce bac plus 2, On va dire que ce type de formation, c'était un rêve. Vraiment, je me disais, waouh, si un jour j'y arrive, ben, ça serait formidable, hein, parce que quand on est au tout début, ben, on est vraiment en phase de remise en question, et puis on se dit, bon, allez, on y va et on verra comment ça se passe. Et puis quand j'ai réussi à atteindre ben, ce Graal qui était le mien, hein, on va dire mon Himalaya, ben, c'est vrai que c'était déjà une belle réussite, ben, à presque 30 ans, quoi.
Ouais. Le fait que ça soit très orienté effectivement autour des professionnels, etc., est-ce que c'est peut-être plus rassurant ou en tout cas plus agréable de se dire qu'on va être orienté en fait action, on va être orienté entreprise et puis on va être aussi entouré de d'autres professionnels qui sont en reconversion par exemple? Est-ce que c'était le cas dans tes promotions?
Exactement, c'est-à-dire que la force du saisie, c'est que tous les intervenants sont des professionnels du métier, c'est-à-dire que tous les jours, ils ont la capacité de nous parler des problématiques qu'ils rencontrent dans des secteurs tous différents, parce que c'est un métier où le responsable HSE, par exemple, dans le secteur industriel pétrochimique, ne fait pas exactement les mêmes choses que, par exemple, dans le transport ou la logistique. Et ça nous permet vraiment d'acquérir, de s'enrichir en plus, on va dire, du cours classique, mais de s'enrichir ben, du vécu et des expériences de chacun. En plus de ça, sur une promotion, on est tous dans le même cas, c'est-à-dire on est tous en entreprise et on vient tous une semaine, donc on s'enrichit des expériences des autres. Et ça permet également de débuter très rapidement la création d'un réseau professionnel intéressant entre les intervenants et on va dire la promotion. Et tout ça, je pense que si on sait bien l'utiliser et qu'on le travaille, ben c'est quelque chose qui est formidable pour la pré-étude, quoi, la pré-formation.
Ouais. C'est vrai que, alors je sais pas, dans les intervenants, est-ce que c'était effectivement des gens qui venaient du monde de l'entreprise, c'est
Ah
ça?
oui, c'est uniquement, voilà. C'est soit des gens qui sont employés en qualité de responsable HSE en entreprise, soit ce sont des gens qui ont eu un vécu en entreprise et qui sont maintenant consultants indépendants et du coup qui ont ben, cette opportunité-là de nous partager des expériences dans tout type d'entreprise. Donc ça nous permet vraiment
Ouais.
d'avoir une vision globale, quoi.
Ouais, une vision très complète, quoi. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, alors même si c'est long, hein, parce que tu as quand même eu un parcours de plusieurs années, mais qu'est-ce qu'on y apprend pour plutôt qu'on comprenne un peu les différents domaines d'apprentissage pour obtenir ce genre de diplôme?
Alors en fait, on va dire que du bac plus 2, on va dire au même bac plus 5 et bac plus 6, on reste sur un schéma commun, parce que la base du métier est fondée sur des systèmes de normes, sur de la réglementation, et le métier de l'HSE tourne beaucoup autour de ces domaines-là, parce que sa fonction principale, c'est de mettre en place un ensemble d'actions pour assurer la conformité réglementaire et normative d'un système de management. Et tout ceci, bien sûr, dans l'objectif que l'entreprise atteigne ses objectifs de performance, mais également pour préserver l'ensemble des travailleurs face aux risques industriels auxquels ils sont confrontés. Donc on va dire sur les différents niveaux, on apprend au début ben, sur une première échelle la base, et puis après, dès qu'on passe sur les masters 1 et plus, c'est la fonction de manager qui rentre en jeu, parce qu'en complément de tout le cursus technique, il y a un aspect, une posture managériale qui est assez importante à s'approprier, étant donné qu'on est une fonction transverse au sein des entreprises et on va dire une fonction support, on travaille avec l'ensemble des services. Donc ça veut dire qu'il faut avoir cette capacité bah, à comprendre les besoins de partout et le transformer suffisamment correctement pour qu'il serve à tout le monde et pas faire bah, des choses pour faire des choses.
Et dans les types de matières enseignées, il y a quoi? Il y a du légal, il y a du juridique, il y a du... Enfin, j'aimerais bien imaginer un peu le type de matière.
Ben, si on prend le type de matière, on peut utiliser ben, les fameuses lettres barbares. Donc si on prend la qualité va permettre d'enseigner des matières donc, qui sont déjà centrées autour de ce qu'on appelle ISO 9001, qui est le référentiel international pour le système de management de la qualité. Et à partir de là, se ramifient des formations ben, autour du pilotage, c'est-à-dire apprendre à manipuler, à créer, à suivre des indicateurs, des tableaux de bord. Autour de ça, également, à apprendre à être orienté sur la satisfaction d'un client. Pour ceci, ça peut passer par la gestion de non-conformité également, c'est-à-dire qualité produit ou qualité service système, c'est-à-dire lorsque une industrie produit un produit, le client final attend d'avoir son produit comme il a demandé.
Qui répond au cahier des charges, quoi.
Exactement. Mais la vie réelle fait que des fois, il peut avoir des déviations. Mmh. Et ces déviations-là passent par un système de management de qualité qui est capable de qualifier un produit ou un service.
D'accord, ok. Bon, alors du coup, effectivement, tu commençais un petit peu à nous expliquer justement quel est votre rôle en entreprise. Ça m'intéresse énormément que tu puisses... nous expliquer donc ton périmètre d'intervention au sein d'une entreprise, ton rôle.
Ouais, cette question, ça va être la plus dure à répondre.
T'as vu, je commence par la plus facile, hein, si tu es sympa.
Cette question, elle va être la plus dure à répondre parce que, étant donné qu'on a au minimum trois domaines de compétences sur la qualité, la sécurité et l'environnement, à savoir que maintenant, beaucoup rajoutent la sûreté aussi.
Alors, tu vas m'expliquer la différence entre sûreté et sécurité.
La sécurité, on assure, on met en place des actions pour, on va dire, sécuriser l'activité et les personnes.
Ouais.
Et la sûreté, on va être plus orienté sur des actions de malveillance, attentat, terrorisme, vol, enfin, tout ce qui tourne.
Et, y compris cybersécurité, etc.
Cybersécurité, on est entre la sécurité et la sûreté également. Et voilà, j'allais dire également la cybersécurité qui devient également un enjeu. Donc en fait, le métier de QHSE, en fait, il s'invente un petit peu tous les jours. Le Covid, il a eu un réel impact là-dessus aussi. Il a donné une autre dimension au métier. Et il y a même des notions maintenant de gestion des risques. Vraiment, on appelle ça les risk managers, qui est en train également d'évoluer. Donc on avait par exemple des risk managers qui étaient pendant des années orientés... qui venait du monde des finances, maintenant on se rend compte qu'il faut le réorienter version opérationnelle. Donc c'est un métier qui se réinvente tous les jours.
Les domaines semblent effectivement très larges. Je voudrais quand même qu'on essaye de rentrer dans le concret pour que ça, les gens puissent se projeter et comprendre. Est-ce que tu peux nous donner des exemples en fait d'interventions, de dossiers que tu peux gérer, et notamment dans chacun de ces domaines-là, en fait, dans QSE ou QHSE, pour qu'on puisse un peu imaginer, en fait, quel est ton périmètre d'intervention.
Alors, le périmètre d'intervention, en fait, ça fait partie également c'est des mots qui sont propres également aux normes, on appelle ça le périmètre du système de management. Déjà, ça va être lié à l'activité de l'entreprise, mm-hmm. et concrètement, par exemple, sur la partie qualité, ce qui est passionnant dans ce métier, c'est qu'on peut aller sur le terrain pour aller relever un ensemble de non-conformités qui sont importantes pour l'entreprise parce que ça représente potentiellement des coûts. Et puis, la fois d'après, on est en réunion pour la mise en place d'un système, le pilotage et son suivi. Un système de management, c'est un ensemble d'actions, d'activités, de processus qui correspondent à l'activité même de l'entreprise et qu'on a, on va dire, séquencé pour pouvoir mieux la gérer, tout simplement.
Ok.
Sur la partie sécurité, c'est un métier également extrêmement complet, donc on pourra être pendant des jours sur le terrain auprès des équipes opérationnelles afin de les accompagner pour faire en sorte que les opérations quotidiennes se passent bien et de préserver la santé et la sécurité physique et mentale des salariés. Comme également, on peut se retrouver... sur la mise en place d'un système de management de sécurité afin d'être du coup le plus en amont possible dans la prévention, toujours dans un objectif de préserver le capital humain et également un objectif de performance. Sur la partie environnementale, donc l'environnement, notre objectif principal est d'éviter les pollutions environnementales liées à une activité, que ça soit pour l'entreprise, les riverains, le voisinage, toutes les personnes. Par exemple, si on prend un camion qui se renverse sur une route, certes, ça impacte l'activité d'une entreprise, mais ça impacte tous les gens qui vont rouler derrière, tous les gens qui rentrent du travail. Ça peut impacter la nature, la faune, la flore. Donc, en fait, on essaye de penser suffisamment large pour pouvoir protéger tous ces domaines-là.
Ok, ouais, donc c'est vraiment très large. De quel service tu dépends? Qui est ton patron?
Alors, en fait, généralement, il y a plusieurs possibilités. Des fois, on peut être attaché directement au processus managérial, donc on va dire parmi les bras droits de direction générale. Des fois, On retrouve également des HSE qui sont rattachés au service des ressources humaines, parce qu'on travaille beaucoup avec eux, notamment dans la gestion des accidents de travail, où il y a, on va dire, une collaboration régulière. Ou alors, on peut être ce qu'on appelle vraiment les fonctions support. Ça dépend vraiment de l'activité, de la stratégie de l'entreprise et surtout de l'importance de la place de la fonction HSE. Quel est vraiment son rôle dans le quotidien? On va dire que principalement quand même, et de plus en plus, les fonctions QHSE sont sur vraiment des postes stratégiques parce qu'ils contribuent vraiment à la performance complète d'une entreprise.
Ok. Et alors, est-ce que cette fonction existe dans toutes les entreprises ou tous les secteurs d'activité?
Alors en fait, dès qu'il y a concrètement un risque ou un besoin que ce soit dans la qualité, on retrouve un HSE. Après, il y a encore des entreprises, notamment des entreprises de plus petite taille, des TPE, des PME, qui forcément, en termes de ressources, ne peuvent pas se permettre d'embaucher des compétences comme ça, parce qu'elles ont déjà suffisamment on va dire, de frais liés à leur activité. Mais du coup, elles ont la possibilité d'externaliser avec des consultants en externe pour venir mettre en place des actions ponctuelles.
Mais est-ce qu'il y a une obligation, tu vois, avoir un responsable QSE dans une entreprise à partir d'une certaine taille, par exemple, ou pas du tout? Et là, on est sur de la volonté du patron d'améliorer son process, d'améliorer sa performance et la satisfaction client et l'environnement. Est-ce que c'est du fait tu vois, de l'entreprise ou quelque part, il y a quand même une réglementation qui peut amener les entreprises à devoir embaucher des gens comme toi?
Alors, il y a pas purement quelqu'un qui dit il faut embaucher un responsable HSE. Par contre, il y a pire que ça, c'est que il y a la réglementation liée au code du travail qui, elle, selon certains articles de loi, impose à l'employeur de mettre en place tous les moyens à sa disposition pour assurer la santé et la sécurité de ses travailleurs. Ça veut dire que, par exemple, du coup, l'HSE devient quand même obligatoire, sans forcément être noté dans les lois. Mais concrètement, si on oublie un peu ces deux facettes-là et qu'on parle vraiment réalité, oui, il est vraiment nécessaire et il le sera de plus en plus dans l'avenir pour le bon fonctionnement d'une entreprise.
Ouais, je comprends. Vu que tu dois respecter ces normes, bah, et que soit tu les prends en main et donc du coup tu dois tout acquérir ces compétences-là par toi-même et probablement t'es happé par d'autres sujets, soit tu vas t'appuyer sur un professionnel, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect légal, on va dire, ou certification, parce que je crois qu'il y a quand même, vous avez un rôle très important par rapport à ça. Donc quand une entreprise souhaite effectivement acquérir une ISO, je sais pas, 9001 ou 9002, est-ce que là sur ce rôle-là, je crois que vous avez un poids très important, hein.
Une norme n'est pas vraiment légale parce qu'elle n'est pas obligatoire.
Ok.
Cependant, elle représente, on va dire, un corpus de connaissances et de bonnes pratiques. En parallèle de ça, donc pour mettre en place un système de management et vraiment mettre en place une dynamique au sein de l'entreprise pour être le plus performant possible. Et puis en parallèle de ça, c'est un gage, on va dire, de qualité où on peut parler de sécurité. Selon l'activité de l'entreprise et on va dire les grands donneurs d'ordre, on va dire exigent que forcément lorsqu'ils font rentrer quelqu'un sur leur site, ils soient rassurés du fait que l'entreprise sous-traitante ou l'entreprise intervenante met en place des actions quotidiennes pour assurer la sécurité de ses travailleurs. Donc oui, on a un rôle très important. On est directement, donc c'est quand même les responsables d'entreprise qui portent le leadership et la volonté de certifier leur activité, leur entreprise. Et on est à leur côté en tant que conseiller technique et on va dire accompagnateur de projet pour assurer le respect des exigences de ces normes.
Ok. Bon, alors je voudrais qu'on prenne une mission concrète, n'importe laquelle, celle que tu souhaites, mais je voudrais qu'on décortique les étapes de ton intervention. Parce que de ce que j'ai pu voir en regardant un petit peu, comme je me suis renseignée avant, sur ce métier, et j'ai vu qu'effectivement, il y avait plusieurs étapes, un déroulement en fait, pour aller de A à Z dans une mission qui vous est confiée. Donc est-ce que on peut en prendre une et on va la décortiquer pour voir un petit peu tous les passages?
Alors oui, en fait, ce décortiquage est en effet quelque chose de capital et de plus en plus important pour une fonction HSE. c'est-à-dire avoir la capacité de structurer ses interventions en mode gestion de projet, tout simplement. Si on prend par exemple une entreprise qui veut, ben, pour faire suite à la dernière question, qui veut se certifier selon une norme ou un référentiel qu'elle a choisi, il y a tout un tas d'étapes qui nécessitent des méthodes vraiment importantes en gestion de projet. Donc déjà, la première étape, c'est une volonté réelle de l'entreprise de passer sur cette norme ou cette certification, parce que ça engage, la première chose que ça engage, c'est des coûts, que ça soit en termes de, ben, d'heures de travail, mais également tous les coûts qui pourront être associés à la mise en conformité de l'entreprise face aux exigences de la norme. Donc la première, c'est vraiment une volonté et une implication de toute une équipe, parce que une fonction HSE seule ne pourra jamais aboutir à l'obtention d'une certification si autour de lui, il n'y a pas une équipe qui est fédérée. Donc la première étape, ça serait déjà la volonté. Après, on passe, ben, à tout simplement l'inscription auprès d'un organisme qui est en capacité de venir certifier l'entreprise. Et à partir de là, généralement, il y a un premier audit qui se fait. Donc, soit un audit interne déjà qui est réalisé par la fonction HSE, mais généralement, on fait venir un auditeur externe, tout simplement parce que quand on est partie prenante de son système, on ne voit pas tout.
Bien sûr.
Et d'être honnête face à son système, c'est de faire venir quelqu'un de l'extérieur qui est un œil neuf et qui va apporter des pistes d'amélioration concrètes en vue de l'obtention de cette certification. On dit que généralement, classiquement, sur ce type de projet, on est entre 12 et 18 mois. Donc ce n'est pas des petits projets quand même. Ça
Non.
veut dire qu'on part pour un an à un an et demi à travailler quotidiennement pour mettre en place ce type de certification. Et à partir de là, une fois qu'on a cet audit, on a donc suffisamment de matière pour mettre en place des actions et les suivre. Donc il y aura des actions qui pouvaient être réalisables à courte, mais à longue durée. Donc c'est pour ça qu'on se donne généralement 12 à 18 mois devant nous. Donc c'est là, à partir de là, qu'on met en place une structure projet, parce que dans les différentes actions, on a différentes catégories d'actions, et il est bien de savoir les structurer pour pouvoir bien les suivre.
Donc c'est
Et
toi
c'est à
qui
part.
écris les procédures, les actions à mettre en place, qui les time, qui fait un rétro-planning de toutes ces actions-là. C'est vraiment toi qui pilotes à ce moment-là le projet, on est d'accord?
Exactement, c'est-à-dire que en collaboration permanente et avec, on va dire, notre directeur, mais également, étant donné que dans une activité d'entreprise, il y a plusieurs services, il faut responsabiliser et définir des rôles et responsabilités au sein de ce projet sur l'ensemble des services. Et la fonction HSE devient donc un pilote, on va dire un superviseur. Et ce sont les pilotes de processus qui sont, eux, responsables de leur propre service au sein de l'activité, qui vont mettre en place également ce type d'action. Donc c'est comme ça que se passe concrètement un projet. Et puis après, il y a également toute une partie formation, parce que en dehors, on va dire, des aspects managériels, ben, ceux qui sont au quotidien, ben, ce sont les techniciens, les opérateurs qui sont sur le terrain et qui font que l'activité peut se réaliser. Donc il y a également toute cette strate-là à sensibiliser, à former. Donc ça veut dire que concrètement, on jongle entre du pilotage d'action et bah, une présence quotidienne auprès des opérationnels sur le terrain, bah, afin que le système de management, en fait, il soit uniforme et qu'une action qui est écrite sur un papier, elle ait du sens en bas sur le terrain pour le technicien qui va les réaliser, qui est en bout de la chaîne. Et ça, c'est très important. De garder ce côté humain, parce que c'est facile d'écrire des actions sur le papier, mais le but, c'est d'écrire des actions qui soient suffisamment pertinentes, ben, pour l'objectif du projet, donc obtenir une certification, mais qui soit vraiment, qui ait du sens pour tout un service entier.
C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as quand même une vision du coup très transverse de l'entreprise. Tu as quand même un rôle effectivement, comme tu dis, de pilote et en même temps je trouve aussi un peu de, je sais pas si c'est diplomate le bon terme, enfin en tout cas de fédérateur, parce que tu dois faire comprendre à tous l'intérêt de la mise en place finalement de cette norme à tous les niveaux, c'est ce que tu disais. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu n'as aucun lien hiérarchique avec toutes ces personnes-là. Donc, il faut, j'imagine, développer des qualités de communication, certaines, quoi.
Ah oui. En fait, c'est même une grande partie du travail. La communication en dehors du pilotage et des actions opérationnelles, c'est que c'est de la communication. Et c'est surtout, en fait, dans cette communication, savoir donner du sens. Parce qu'on ne peut pas arriver avec une idée, une façon de faire et dire demain c'est comme ça. Non. Il y a cette fameuse, conduite du changement qui est écoutée et nommée de partout en ce moment, à savoir également maîtriser. Et oui, et agir comme un fédérateur en disant, voilà, le but, c'est que il y a un pilote dans le bateau, ben, c'est une direction générale, et après, on va tous dans le même sens. Et c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant en termes de challenge, c'est que ben, quand on arrive à mener des projets de cette dimension-là, et qu'on a réussi à fédérer une équipe, qu'on prend du plaisir, en fait, tous ensemble, et peu importe la difficulté, c'est extrêmement enrichissant à vivre.
Et surtout que si tu dis que les projets durent entre 12, 16, 18 mois, en fait, il faut tenir en haleine tout le monde. Donc il y a vraiment, j'imagine, nécessité de montrer les petits progrès, les petits avancements à chaque étape pour que tout le monde reste mobilisé face à l'objectif. Donc il y a vraiment un rôle que je n'avais pas imaginé de communication, effectivement.
C'est ça, il y a une motivation de longue durée à conserver, parce que concrètement, on est plus sur une course type marathon que sur un sprint, même s'il y aura plein de sprints dans le marathon à faire, pour vulgariser un peu la gestion de projet sur ces aspects-là. Mais c'est ça, c'est-à-dire la motivation, il faut qu'elle tienne. Et généralement, ce qui part, c'est que ça part très fort. Et puis, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée. Mais au bout d'un moment, ben, c'est normal, on a besoin de souffler, donc ça rebaisse. Mais il faut pas oublier que ça se rapproche. Et du coup, il faut conserver cette motivation pour aller jusqu'au bout. Et puis, quand on arrive au bout, on a tous beaucoup donné. Et puis, il y a la certification qui approche. Donc après, il y a un phénomène de stress qui s'empare de l'ensemble des équipes. Et du coup, on est dans une autre dynamique où il faut rassurer et dire que tout ce qu'on a fait, c'est bien passé, quoi.
Ouais. Ok, c'est super intéressant. Alors, une petite question tordue. Tout à l'heure, tu disais effectivement que l'objectif, c'était de travailler sur la productivité, la satisfaction client, l'environnement, le bien-être au travail, en tout cas la sécurité. J'ai l'impression que dans tous ces mots, il y a quand même des fois des objectifs qui peuvent être contradictoires. Quel rôle tu as de contre-pouvoir, à quel moment, en fait, quand ces objectifs peuvent être amenés à être contradictoires, tu as ce rôle-là de trouver un juste équilibre.
Oui, je pense comprendre que les objectifs contradictoires peuvent être en lien avec les objectifs de performance, que ce soit financière ou autour de ces domaines-là, et après, les objectifs opérationnels. En fait, je pense que le tout, c'est juste d'être honnête et de savoir dire ça, je peux y arriver. Par contre, ça, je peux pas. Là, cette année, je peux pas. On peut essayer l'année prochaine, mais cette année, je peux pas. Ça me paraît pas accessible. Parce que quel est l'intérêt de présenter des objectifs à toute une équipe qui n'ont pas été obtenus, à part de perdre de la motivation?
Oui, et du coup, de la crédibilité dans le prochain projet sur lequel tu vas vouloir les mobiliser, quoi, c'est ça?
Il vaut mieux, par exemple, comme on dit, 4 à 5 objectifs bien menés et qui apporte une plus-value, mais pas que sur de la performance financière, même sur de la performance humaine, le bien-être au travail, qui sont bien menés, bien faits, plutôt que 10 objectifs avec 5-6 un peu réussis, 2 mieux réussis, et puis 3 complètement abandonnés.
Ok, donc dans ce que tu dis, effectivement, le point le plus important au démarrage, c'est de se fixer des objectifs qui sont réalistes et qui ne vont pas à l'encontre, en fait, de toutes les dimensions de l'entreprise, y compris le bien-être au travail ou l'environnement, hein, tu vois, tout à l'heure j'y pensais,
mais ouais, bien sûr.
Tu peux te dire que parfois la productivité peut aller à l'encontre de toutes les normes un peu d'environnement, donc toi ton objectif, c'est de trouver cet équilibre et de mieux définir les objectifs avec finalement probablement la direction, quoi.
Tout simplement, en fait, le but, c'est de faire de son mieux, mais dans un souci de cohérence, quoi.
Parce que,
bien entendu, l'environnement, le développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises sont des phénomènes qui ont le vent en poupe, et parce que c'est normal aussi, c'est normal, et c'est bien, mais on peut pas partir sur des objectifs de dire « on va tout faire », alors qu'on est déjà, on est déjà au début de penser à ce type d'objectif. Donc, il faut fixer quelques objectifs atteignables et réalistes, et qu'à la fin de l'année, on soit fier de les avoir menés pour pouvoir avoir l'envie d'en créer des nouveaux.
Ok. Alors, tout à l'heure, on a parlé de QHSE. J'ai l'impression qu'on a. Et de sûreté, d'ailleurs. Du coup, je ne sais pas si ça va devenir QHSES. Mais
Il y en a plein des noms.
il y en a plein. Ouais.
Ah oui.
Ah, bah tiens, bah, c'est intéressant. Tiens, bah, alors voilà. Très bien. C'est quoi les noms dits? Quels sont les différents noms qu'on peut retrouver derrière
Waouh.
ta fonction?
Alors tu peux retrouver QSE, tu
Ouais.
peux retrouver QHSE, tu peux retrouver QSSE, santé, sécurité, ou des fois santé, sécurité pour le premier S et sûreté le deuxième. Tu peux retrouver HSE, tu peux trouver HSE et risque industriel, tu peux trouver chargé de prévention. Tu peux trouver ingénieur prévention, ingénieur HSE. Tu peux trouver et après il y a les personnes parce qu'il y a des personnes qui sont aussi là on parle beaucoup de fonctions très managériales, mais également il y a des fonctions qui sont capitales. C'est ce qu'on appelle ben, les techniciens et les préventeurs HSE qui eux sont beaucoup plus expertisés dans les actions de terrain que dans les actions de on va dire de système. Et en fait, ils font partie intégrante du bon fonctionnement d'un système HSE, parce qu'un manager, est potentiellement beaucoup moins expert qu'un préventeur qui est tous les jours sur le terrain. Et ces gens-là font du travail formidable. Et de toute manière, il faut passer, moi je l'ai fait également, il faut passer par là pour réussir à monter suffisamment bien sur des postures managériales. Il faut comprendre vraiment le bas.
Ouais.
Donc voilà, on a vraiment, maintenant, il y a, comme je disais tout à l'heure, on va dire, il commence à se dévier des fonctions QHSE, mais on a ce qu'on appelle les risk managers, qui ont, on va dire, une reconnaissance sur le marché plus orientée finance, assurance, secteur bancaire. Mais maintenant, on retrouve des risk managers qui commencent à piloter du risque opérationnel et du risque financier.
OK.
Donc en fait, c'est waouh, il y a beaucoup
C'est
de
très
monde dans ce métier.
diversifié. Est-ce que tu l'expliques parce que c'est un secteur d'activité qui est finalement quand même assez jeune, si je ne me trompe pas quand même? Ce sont des fonctions qui n'existaient pas je sais pas, il y a 30 ans, non? Enfin, j'ai l'impression que ce sont des
Alors
fonctions
en
assez
fait,
récentes.
elles existent depuis des années, puisque historiquement, le premier préventeur de nom était dans les années 1800-1900, mais c'était des médecins. Et à l'époque, ils commençaient à faire des études sur le port de charge, sur à l'époque tous les produits dangereux qui étaient, mais dans les toutes premières industries, hein, on parle de celles qui faisaient du coton, des choses comme ça. Mais il faut aller vraiment chercher et on va dire aller lire des bouquins pour trouver ce genre d'informations. À partir des années 2000, dès que les premières normes sortent, on en parle plus, mais on a plus l'image de ben, ce qu'on appelle le casque rouge, donc qui va sur le chantier ben, pour réprimander les personnes et un petit peu toute la partie qualité, mais très orientée qualité produit. Et au fur et à mesure, ça change, ça change, ça change sans arrêt, ça change sans arrêt.
Ok,
Vraiment,
mais c'est
c'est
un
incroyable.
secteur en pleine évolution. Alors tu m'as fait ma transition parfaite parce que j'allais te demander justement quelles étaient toutes les fonctions que tu pouvais occuper et donc un peu cette évolution en fait dans le métier possible. Tu as dit que tout à l'heure il y avait des préventeurs, c'est ça? Donc ça c'est
Oui.
vraiment au démarrage de ta carrière, tu commences par ce type de fonction?
Alors, en fait, voilà, on va dire que c'est plus un niveau d'employabilité. Que ça soit au début ou en fin de carrière, c'est vraiment des choix, je pense, qui sont propres à la personne. Il y a des gens, ils sont faits pour passer leur vie sur des terrains d'opération comme ça, parce qu'ils sont excellents. Voilà. C'est leur truc de manager à leur échelle des équipes opérationnelles, de gérer des risques opérationnels. Que ça soit par exemple des risques liés à l'exposition aux produits chimiques, des risques d'échafaudage, des risques de permis de travail.
Donc eux, ils sont tout le temps
C'est
sur le terrain, quoi. Ils sont
ils sont tout le temps sur le terrain. On va dire, ils se décrochent un peu du terrain ben, pour réaliser toute la partie administrative et rapport de tout ce qu'ils ont vu. Mais voilà, ce sont vraiment des spécialistes du terrain. Donc on a vraiment cette partie-là. Moi, j'aime pas trop parler. Je pense, voilà, c'est pas parce qu'on demain on peut avoir des très hauts diplômes et avoir l'envie d'aller sur le terrain, il y a rien qui l'empêche. Je pense que c'est vraiment des choix d'évolution, des choix de carrière. Après, il y a des profils plus intermédiaires, qui vont occuper des fonctions déjà de responsable, parce que bon, après c'est un nom qu'on met sur un papier, mais on peut mettre ce qu'on veut, on va dire derrière, des fonctions voilà intermédiaires qui vont être, qui commencent à faire du pilotage du système et qui occupent toujours des fonctions sur le terrain, parce que tout simplement, par exemple, ils sont au sein d'une PME d'une cinquantaine et que du coup, la charge d'activité permet d'être autant auprès de leur direction générale. On va dire que auprès des opérationnels sur le terrain. Après, forcément, on passe sur des fonctions de pilote que de système qui vont peu sur le terrain. Donc là, c'est des fonctions vraiment d'engineering et qui mettent en place des actions, des systèmes qui réfléchissent sans arrêt pour la performance des systèmes. Et après, ben la dernière strate, ça sera forcément les directeurs. Qui réfléchissent aux actions stratégiques de l'entreprise et qui mettent en place tout ce qui est lié vraiment à la stratégie pour que ça corrèle avec l'activité et les volontés ou également stratégiques mais plus orientées direction générale.
Ok. Alors dans ton métier, j'ai l'impression aussi que comme il est lié beaucoup à ce qui entoure l'entreprise, son environnement, la stratégie d'entreprise, etc., les risques potentiels, quels qu'ils soient, c'est tout le temps en évolution. Donc, est-ce que vous avez des systèmes de formation continue ? Parce que comment tu fais pour être tout le temps au fait des dernières normes, des dernières contraintes, des dernières, ou inversement, des derniers outils qui te permettent d'être plus performant, etc. Comment tu fais ça, toi ?
Alors oui, toute la fonction HSE, que ça soit sur la partie vraiment opérationnelle jusqu'à la partie stratégique, c'est la formation tout le temps, tous les jours. Que ça soit auprès de nous-mêmes, mais également auprès des équipes. Donc oui, elle est extrêmement reliée à toute la partie formation et de toute manière. Il y a beaucoup, on va dire, toutes ces formations permettent justement de sécuriser le quotidien des opérationnels. Après, là où c'est en pleine expansion et en pleine évolution, c'est que, comme tu as dit, les risques évoluent sans cesse. Et à travers les risques, il y a, pourquoi ils évoluent les risques ? Parce que c'est l'évolution humaine, nous qui faisons évoluer notre monde. Et je dirais qu'il y a tous les risques qui seront liés également aux nouvelles technologies. Parce qu'on met en place des nouvelles technologies extrêmement puissantes maintenant dans les entreprises, que ça soit de l'exosquelette ou des systèmes robotisés qui viennent, je pense pas essentiellement remplacer l'homme, mais qui modifient son activité autour de la machine. Donc le dynamisme de formation est essentiel pour pouvoir suivre l'avancée et le changement des fonctions.
Ouais, donc ça doit être passionnant intellectuellement, quoi, de pouvoir vivre ça au quotidien, quoi.
C'est génial. Mais si on prend par exemple le Covid.
Ah mais tu me fais toutes mes transitions, mais tu imagines.
Oh là 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 là, alors j'arrête.
Boum, allez, c'est parti sur le Covid, parce que ça, je trouve que ça doit forcément avoir un impact énorme sur votre activité quand même, parce que là, les salariés, ils sont plus sur site, mais pour la plupart du temps, ils sont en télétravail. Donc, qu'est-ce que ça impliquait ? Puis évidemment, il y avait aussi énormément de risques, même quand ils étaient en présentiel. Donc, bon, voilà, bref, beaucoup de problématiques qui ont dû vous arriver comme ça sans prévenir, quoi.
C'est ça, exactement. Alors après, moi, j'ai un positionnement très particulier sur ce sujet, notamment sur la gestion des risques. Mais en fait, toute cette partie-là, gestion des risques, va prendre dans les années à venir, à cause ou grâce du Covid, ça dépend comment on voit la chose, une importance capitale. Parce que concrètement, gérer des risques qui sont liés à une activité, même liés à des projets, on va dire, on savait le faire, puisque ça fait des années qu'on le fait, avec ses contraintes et ses difficultés, mais on met en place tous les jours quelque chose pour pouvoir gérer le risque. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais ça, c'est, voilà, c'est lié, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. On peut pas dire qu'on maîtrise à 100% les risques parce que bon, il y a toujours, c'est un risque et il y a toujours quelque chose qui fait qu'il peut survenir. Mais là, le Covid, celui-là, il y a personne qui s'y attendait. Et concrètement, il a fait des dégâts monstrueux au sein des systèmes, justement. des systèmes peut-être qu'ils pensaient bien maîtriser leurs risques, ben celui-là, il a remis, je pense, les compteurs à zéro en disant, bon, ben, que ça soit de l'artisan aux plus grands groupes internationaux, ben, qu'est-ce qu'on a su faire, en fait ? Ben, pas grand-chose. Mm. On a su mettre en place de la gestion de crise, bien entendu, et on s'est rendu compte à quel point, et d'ailleurs, on parlait de la formation, il y a énormément de formation qui est en train de se produire autour de la gestion de crise et autour des plans de continuité d'activité, c'est-à-dire que avoir la capacité d'identifier le maximum de scénarios en se disant « Ok, s'il arrive ça, je fais ça. » Je pense que celui-là, il a fait comprendre à quel point la gestion des risques devenait vraiment un levier de développement pour une entreprise, parce que le but, c'est quand même de continuer son activité pour préserver déjà ses finances, mais pour préserver aussi ses employés.
Exactement. Ouais, ouais. En fait, c'est toi qui as ouvert les portes du laboratoire en Chine, c'est ça ? C'était pour démontrer qu'en fait, on avait besoin de vous, quoi. Vas-y, avoue-le à l'antenne.
Moi, j'y croyais. Moi, je savais. Enfin, c'était très personnel, mais je me rendais compte à quel point ça pouvait prendre une place considérable. Mais c'était très dur à c'est toujours, hein, c'est pas encore gagné. C'est très dur à faire entendre de dire, mais écoutez, avec une bonne gestion des risques, je vais pas dire on peut faire de la magie, mais presque, on peut faire beaucoup de choses bien. Mais il suffit de lui donner la place. Et là, derrière, il y a eu le Covid, qui lui a démontré à quel point la gestion des risques au sein d'un projet ou au sein d'une entreprise était capitale pour son fonctionnement.
Clairement. Et surtout quand ce risque-là, il est national, international, où tout est impacté dans toutes ses dimensions. Et je me disais quand même aussi, tout à l'heure, je parlais du télétravail, c'est quand même potentiellement une évolution hyper importante dans vos métiers, parce qu'il y a bien un moment donné où tout ça va être légiféré de la qualité, en fait, de l'environnement du travail. Tu vois, quand t'es sur site, oui, t'as des obligations quand même de faire en sorte que tes salariés travaillent dans de bonnes conditions, etc. Qu'est-ce qu'il en est quand tu travailles de chez toi, en fait ? Personne ne contrôle si t'as des bonnes conditions, un bon siège, enfin j'en sais rien, mais tu vois, à quel moment, il y a forcément un moment donné où le sujet va être abordé et vu que ça se généralise et que ça devient presque une norme, ce télétravail, j'imagine que ça va avoir aussi un impact, non, sur les dimensions de votre travail.
Oui, bien sûr. Le télétravail a démontré des bonnes et des mauvaises choses. Si on commence par les bonnes, c'est que un management à distance peut très bien marcher pour l'activité d'une entreprise. Et il a fait ressortir, étant donné que nos risques entre la cybersécurité, les risques pandémiques type le Covid, ils évoluent sans cesse, est-ce que potentiellement on est voué à être plus à domicile, mais à continuer à travailler, on va dire, pour préserver les fonctions principales de l'entreprise qui font que ça avance. Je sais pas, on verra, j'ai envie de dire. En tout cas, depuis maintenant plus d'un an et demi, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on est obligé de savoir travailler d'un point de connexion. Donc, il a fait ressortir quelque chose, c'est que par rapport à notre activité, la digitalisation des systèmes de management de QSE, c'est-à-dire venir mettre en place des outils digitaux collaboratifs, devenait essentiel. Parce que le tableau Excel enregistré sur le serveur interne de l'entreprise ou de la maison, il faut un code sécurité, un token, et espérer qu'on ait la fibre parce que la DSL passe pas et qu'on n'arrive pas à accéder au dossier, c'est là. Et ce phénomène de digitalisation, il existe depuis des années. Mais c'est pareil, on était sur, on va dire, un refus face à ce changement. Il a démontré ça. C'est-à-dire, digitaliser pour digitaliser, non. Parce que c'est des coûts, c'est une gestion de projet autour de ça. Par contre, digitaliser avec des bons outils et qui permettent de continuer à piloter à distance grâce à un point de connexion, et qui permet d'automatiser certaines fonctions, qui permet de réaliser du reporting en deux clics, qui permet de distribuer des actions, des tâches et des fonctions à quelqu'un qui a des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres de nous, et également de pouvoir communiquer avec des outils comme Teams. Donc le Covid, sur cette partie télétravail, il a démontré ça. Les outils digitaux ont leur place, cependant, il faut faire le bon choix. Voilà. Il faut faire le bon choix, il faut faire une réelle étude de quelque chose qui correspond bien à l'activité. Et après, oui, sur la partie gestion opérationnelle et un peu plus humaine, les mauvaises choses, c'est que l'humain a quand même besoin de contact, d'être intégré au sein d'une équipe. Et un télétravail trop prolongé, pour certaines catégories de personnes, c'est pas faisable. C'est pas aussi favorable pour toutes les personnes qui sont sur des métiers opérationnels. Mais après, il y a quand même une grande partie de l'activité qui a su continuer au moment où les préconisations de l'État nous le permettaient. Donc je pense que
Et dans le cas de ton
ben,
travail, toi, t'as été amené à mettre en place des actions justement un peu en
Ah
réaction
oui.
justement par rapport à ce phénomène de télétravail qui peut être compliqué pour certaines personnes, etc.
Ah oui, ah oui, bien sûr, parce que mon activité, j'étais donc ingénieur HSE dans une entreprise qui faisait du management de projet, et nous, on construisait des cimenteries à l'international. Donc ça fait qu'on avait du personnel de un petit peu de partout en Afrique. Et j'ai été on va dire l'un des moteurs de toute la cellule de gestion de crise. Et qui ont porté des réflexions afin de pouvoir continuer notre activité jusqu'à où on pouvait. Mais bon, ça s'est finalisé qu'on a fait rentrer presque en catastrophe nos personnels pour pouvoir sécuriser, pour assurer leur sécurité, mais en France. Et après, adapter toutes les mesures nécessaires pour pouvoir repartir sur nos chantiers, les réouvrir. Donc ça a été tout un tas de protocoles à réfléchir et à adapter à notre activité. Oui, je l'ai vécu de plein fouet.
Ça devait être super, intellectuellement super intéressant. Ouais,
C'était très intéressant, par contre. C'est très formateur.
on a tous été très bousculés. Bon, alors désolé de redescendre sur terre, parce que là maintenant je vais te parler statut et salaire. Je voudrais comprendre un petit peu quel statut on peut avoir. Est-ce qu'on est forcément employé? Est-ce qu'on a des fonctions en fait en régie, enfin quand je dis en régie, c'est en freelance. Quand on est en salarié, est-ce que c'est plutôt statut employé, plutôt statut cadre? Enfin voilà, comprendre un petit peu l'évolution même de carrière qu'on peut avoir.
L'employabilité, on va dire, sur le marché HSE, il est principalement lié soit à une expérience, soit à un niveau de diplôme. Donc sur on va dire, la strate technicien-préventeur, on sera sur le statut de l'employé, agent de maîtrise, ou cadre, selon si on est sur des professions un petit peu intermédiaires, c'est possible. Après, une majeure partie, et quand même, notamment les managers, les responsables sont sous le statut du cadre. Et bien entendu, après, il y a les cadres supérieurs dès qu'on est sur des fonctions de directeur. Donc ça, c'est vraiment pour la partie salariée. C'est relativement homogène, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il y a une majorité qui se trouve quand même dans le cadre ou assimilé cadre et cadre supérieur. Et après, oui, en ce qui me concerne, moi, je suis sur le marché du freelance.
Ouais, on va en parler
Donc
justement après.
il y a la possibilité également d'être sur le marché du freelance, que ça soit pour la partie opérationnelle comme sur la partie système
Donc
également.
d'intervenir en externe, en fait, dans le cadre des entreprises. En termes de salaire, est-ce que une fourchette et est-ce que c'est plutôt un métier plutôt bien payé? Est-ce qu'il y a des systèmes de fixes plus variables?
Oui, c'est quand même un métier correctement payé. Voire même des fois très bien payé selon l'importance des fonctions, des responsabilités, je vais dire. En fourchette de salaire, sur des fonctions de préventeur, on peut être entre 30 et 40K brut à l'année, voire plus. Je donne vraiment des choses très standards,
Ouais.
hein. Sur des fonctions cadre, on peut être entre 42, 43 et aller jusqu'à 50, 60.
Ouais, c'est des métiers bien
Sur des
payés quand
fonctions de
même.
cadre plus, de cadre un peu expérimenté, on peut aller jusqu'à 70, 80K brut. Et des fois, ça monte à plus de 100, 100K. Si on prend par exemple, j'ai ça en tête, mais ces fameux risk managers, on a vraiment un niveau bas qui est déjà à 60K minimum. Une fourchette autour des 100, et les mieux payés, ils peuvent même arriver à plus de 200K, mais c'est extrêmement rare. Voilà.
Ouais.
C'est vraiment waouh. Voilà, il y a cette fourchette basse, on va dire, mais il y a cette fourchette très haute sur du top management.
Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité d'évolution qui est quand même et en fonction et en salaire qui est quand même super super importante. Ok, oui. Eh ben, merci beaucoup. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu justement de ton aventure entrepreneuriale, pardon, que tu nous expliques un peu pourquoi tu as voulu te lancer dans cette aventure-là et quelle est ton entreprise, quelle est sa mission, etc.
L'aventure entrepreneuriale, c'est quelque chose également que je rêvais, que j'ai rêvé très rapidement dans le cadre de mon parcours de reconversion. Et en fait, lors de ma dernière année d'études sur le master spécialisé en management de sécurité et risque industriel au sein du CESI, j'ai réalisé une thèse professionnelle. C'était quelque chose que je voulais vraiment faire pour le développement de soi et donc tout ce qui concerne développement personnel, parce qu'on est sur la recherche de concepts innovants, à caractère novateur, c'est plus adapté, parce que innovant, quelque chose de innovant, c'est quelque chose qui est commercialisé. Sinon, c'est une invention. Il faut faire attention entre invention et innovation. Donc, je vais parler de caractère novateur, donc c'est-à-dire d'amener un produit ou un service qui apporte de la valeur ajoutée au sein des entreprises. Donc, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Je suis tombé sur une piste intéressante et j'ai déposé une thèse spécialisée dans la gestion des risques pour le management de projet. Dans le cadre de cette thèse, j'ai eu la chance de rencontrer une super entreprise qui s'appelle le groupe Simaline. Et lorsque je les ai appelés avec ma petite idée derrière la tête, ils m'ont dit « Nous, ton idée nous intéresse bien et on va la développer ». Donc, on va dire qu'ils ont été des acteurs importants. Donc, j'ai créé tout le cahier des charges. On a développé le projet ensemble. Et c'est eux qui m'ont donné ce projet-là qui m'a donné « Ok, il faut que tu y ailles, il faut que tu te lances. C'est le moment ou jamais. Tu as un projet qui est viable, tu as une entreprise qui te suit et ça va partir ». Et j'ai ouvert mon entreprise dans ce domaine-là, donc dans le but de proposer de la prestation dans le domaine du QHSE et plus largement dans la gestion des risques au vu de mes positionnements sur les sujets. Également, donc du coup, de l'assistance projet par le pilotage par les risques qui était en lien avec ce que je développe. Et bien sûr, dans le domaine de la transition, parce que la transition, la conduite du changement, c'est des choses et des notions importantes à assimiler autour de ces projets-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, le projet a continué de vivre et je suis à l'aube de le développer commercialement, c'est-à-dire que de la simple idée qui est née il y a 14 mois, aujourd'hui, il y a une vraie solution qui est entre mes mains.
Tu es tout seul pour l'instant dans cette entreprise ?
Alors, dans mon entreprise, oui.
Ouais.
Et j'ai plus pour objectif de fédérer des beaux partenariats pour l'instant pour me développer.
Génial. Écoute, je te souhaite plein de belles choses dans ton aventure. Quelle différence justement tu vois dans l'exercice de ton métier entre justement salariat versus entrepreneur ?
Moi, ce que je souhaitais avoir, c'était l'indépendance permet d'arriver avec ses idées, sa façon de faire et de pouvoir les exprimer comme on le souhaite. Et c'est enrichissant pour moi parce que j'ai la capacité d'aller dans plein d'entreprises.
Ouais.
Et j'en avais besoin de connaître ça dans ma vie, d'avoir cette polyvalence, continuer à acquérir de l'expérience, parce que c'est pas parce qu'on est à son compte qu'on continue pas d'apprendre.
Au contraire.
Et de m'enrichir de ces expériences-là pour continuer à développer des projets innovants, parce que je suis vraiment très impliqué dans la recherche et développement de solutions innovantes pour les systèmes de management.
D'accord, donc la richesse, la diversité te fait encore peut-être plus progresser parce que il y a ce mélange d'expertise, cette circulation de l'expertise qui est très enrichissante. Pour le vivre dans le même statut, pas du tout le même métier que toi, je te rejoins, mais alors complètement, je vote pour ça. alors, avant de passer un petit peu à la phase de conclusion, est-ce que tu as une anecdote sur ton travail, je ne sais pas, drôle, insolite, émouvante, enfin quelque chose qui t'a marqué dans le cadre de l'exercice de ton métier ?
Quelque chose qui m'a marqué ? Je pense que quelque chose qui m'a marqué, c'est malgré toute la vision qu'on a autour de ce métier, qui soit des fois, comme tu l'as exprimé, très peu connu, c'est lorsque tu quittes une entreprise et presque qu'on te dit tu vas nous manquer. Donc ça veut dire que malgré un contexte réglementaire lourd,
ouais.
Malgré le fait presque d'imposer certaines idées
et d'être le poil à gratter un peu de l'entreprise, quoi, c'est ça parfois, non?
Ouais, c'est ça, c'est vraiment dire oh là là, des fois il y a le casse-bonbon qui arrive, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous dire, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire. C'est derrière tout ça de dire j'ai passé un bon moment auprès de toi et ça veut dire qu'il y a une grande part de mission qui est atteinte, hormis voilà, le fait d'avoir le souci de performance, c'est que l'humain a vraiment considéré la fonction et a apprécié de travailler avec.
Ah, génial. Alors, tu dirais que dans ton métier, quelles sont tes joies, tes fiertés et à l'inverse, tes difficultés?
Alors, mes joies et mes fiertés, c'est d'être dans un métier qui est extrêmement polyvalent. Chaque jour ne se ressemble pas. C'est chouette parce qu'on a toujours plusieurs domaines de compétences à maîtriser. C'est un métier qui demande, en termes de développement personnel, un apprentissage continu pour s'adapter, ben, comme on a dit, aux risques qui évoluent continuellement, aux nouvelles technologies. Parce qu'en plus, c'est vrai que de ces aspects qualité, sécurité, environnement et tout ce qui tourne autour, ben, le digital et les nouvelles technologies, on est obligé de les intégrer pour évoluer. Donc ça, c'est vraiment une fierté. Et d'ailleurs, ben, je crois que même dans mon entourage, ils savent même pas ce que je fais encore. Pourtant, ils sont là tous les jours. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est... Mais ça laisse une part de mystère, hein. C'est presque chouette quand on dit, mais je comprends pas ce que tu fais. Ah, bah, écoute, si tu savais. Et les difficultés, je pense que les difficultés, ça en devient presque un challenge. Bah, c'est justement de convaincre, en fait.
Ouais.
De convaincre principalement l'humain, je veux dire, dans son sens large, que ça soit pour la mise en place d'une stratégie... complète, comme ben, l'humain sur le terrain, de dire, si tu vois, si on faisait ça, ça pourrait marcher comme ça.
Ouais.
Et c'est ça la principale difficulté, c'est de convaincre et de faire comprendre qu'on a une vraie place à avoir, et encore plus lorsqu'on adopte cette vision large de gestion des risques.
Non, non, mais c'est vrai qu'il y a un travail d'évangélisation que tu fais très bien d'ailleurs, parce que moi qui connaissais vraiment pas le métier, bah franchement, il est vraiment bien en fait. Il est hyper. Non, mais c'est vrai, il est hyper intéressant, hyper riche. Il est très lié aux évolutions de la société, tu vois.
Ah oui.
Et du coup, ça te permet de. C'est ce type de métier qui te permet de prendre beaucoup de recul par rapport à tous les phénomènes qui peuvent arriver dans la société. Donc je trouve ça très intéressant, franchement. Donc écoute, tu fais très bien le job d'évangéliser, voilà.
Il est trop bien mon métier.
venez. Alors quelles sont pour toi les qualités nécessaires pour justement devenir un bon responsable QSE dans l'avenir?
Je pense que le premier, c'est de savoir écouter. On parle beaucoup du savoir, du savoir-être, du savoir-faire. Mais savoir écouter un besoin, un humain, un système, une vie d'entreprise, ben c'est essayer derrière de faire en sorte que tout ce qu'on va mettre en place ait du sens.
Mmh.
Et après, hormis les qualités vraiment techniques et le cursus, on va dire, comme chaque métier, on doit apprendre beaucoup de choses pour savoir le maîtriser, c'est les qualités humaines à travers la communication, le respect de l'autre, qui va permettre de pouvoir avancer dans ce métier-là.
Ouais. Il y avait une notion aussi que je trouvais intéressante aussi de pédagogie, mais du coup, ça rejoint quand même un petit peu ce que tu viens de dire aussi, hein, c'est une partie. Alors maintenant, si des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs nous écoutent et souhaitent s'orienter vers ce métier, mais plus globalement, en fait, veulent s'orienter, enfin, cherchent à s'orienter, sont en pleine réflexion ou en pleine réflexion de reconversion, quel conseil, toi, tu pourrais leur donner?
En fait, je pense que le premier conseil, c'est est-ce que vous avez une fibre qui est liée à un des domaines? Une fibre qualité, une fibre sécurité ou une fibre environnementale? Parce que dans ce métier-là, il y a la place pour tout le monde. C'est-à-dire que si on a envie de faire un cursus QHSE, mais après trouver plus du travail dans le domaine environnemental, ben, il y aura de la place. Si on est plus orienté sécurité chantier, il y aura de la place aussi. Et si on est une pro, on a envie que toujours que tout le produit tout soit parfait, on peut aller dans la qualité. Donc c'est vraiment avoir cette connotation, parce qu'on peut pas faire ça sans envie ou sans conviction. Voilà. C'est il faut avoir une fibre, un intéressement pour un des domaines, une envie de découvrir les autres, et après libre à chacun de faire le choix et de s'épanouir dans le domaine de compétences où il a envie, en sachant qu'on peut faire 2, 4, 5, 10 ans d'environnement. Et un jour, repartir dans la sécurité, il n'y a aucun problème. Donc on va dire qu'en termes d'évolution de carrière, c'est très riche quand même de se dire, à tout moment, avec le même diplôme, j'ai juste à me réorienter vers de nouvelles compétences, secteurs d'activité, ou à reprendre mes bouquins, à réviser un peu, et à partir dans un autre domaine. Ou si par exemple, on est très attiré par un secteur d'activité, on dit, moi je veux faire HSE dans l'industrie pétrochimique, et puis au bout de 10 ans, On peut aller dans le transport, on peut aller dans les énergies renouvelables qui sont en plein essor également, parce qu'on va avoir de la chasse de partout dans ces domaines-là. Voilà, c'est une liberté de longue durée de pouvoir accéder à tout un tas de fonctions très intéressantes.
Et plus globalement, toi qui as eu le courage en fait de te reconvertir à 27 ans, enfin de, tu vois, de repartir faire des études, s'il y a des gens qui doutent là, qui sont en train de t'écouter et qui doutent, qui se disent non mais attends, j'ai quand même un métier, j'ai quand même un boulot, et puis j'ai 27 ans, et puis j'ai une famille, etc. Tu leur dirais quoi, toi?
Moi, je leur dirais, écoutez ce que vous avez envie de faire et foncez. Ah oui, il faut y aller. Hein. La vie est courte et le plus important, c'est quand même d'être heureux au travail. Et c'est pas de se poser des questions tous les jours. Alors certes, la période de reconversion, c'est dur. C'est dur personnellement, selon l'âge, c'est dur sur les aspects familiaux. Mais après, le résultat, c'est génial parce qu'on en sort encore plus heureux, je pense.
Ouais, eh ben écoute, génial. Alors traditionnellement, dans mon podcast, en fait, avant de quitter mes invités, je leur demande de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier.
Ah, alors j'avais pensé à quelque chose, et je pense qu'il y a un métier qui est très présent et qui est d'ailleurs très lié aussi à des fonctions transverses qui est hyper intéressant à les découvrir. C'est les métiers de coach professionnel, coach consultant en entreprise. J'ai des gens que je connais, mais je pense que c'est un métier qui est, voilà, on le fait pareil avec beaucoup de conviction, c'est juste la ressemblance par rapport à moi, mon métier, et qui est très riche. Parce qu'on peut être dans l'accompagnement d'une personne, l'accompagnement d'un dirigeant, l'accompagnement de... Même maintenant, il se diversifie sur l'alimentaire, la santé. Donc voilà, je pense que c'est un métier que tu vas t'éclater à découvrir
Ah, c'est
encore une fois.
clair. Oh, et puis, il y a plein de gens super intéressants. Merci, hein, c'est une super idée.
Bah tant mieux alors.
C'était super, super intéressant. Expliqué de manière hyper claire et simple aussi. Puis, bah, je te dis à très vite.
Merci Julie, à très vite.
J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant éclairé que moi sur ce métier passionnant. Si vous souhaitez suivre l'actualité de Kevin, vous pouvez le retrouver sur son profil LinkedIn, Kevin Pors, Pors. Et pour avoir plus de renseignements sur son programme diplômant, toutes les infos se trouvent sur le site cesi.fr, cesi.fr. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!